Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu révèle ce qu'il est, Marie et reine. Alors, quand on reçoit la révélation, notre intelligence reçoit la révélation, elle l'entend, elle y adhère sans condition. Même si elle ne comprend pas tout, et Dieu sait qu'elle ne comprend pas tout, hein, c'est sûr. Si on comprenait tout, je veux dire, ce serait trop... Ce serait pas bien, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça. Et donc, on comprend pas tout. On comprend beaucoup de choses, hein, mais on comprend pas tout. Et on adhère sans condition à tout ce qui est contenu dans la révélation. Et du coup, on touche Dieu. La révélation, c'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui parle. Et donc, quand j'entends la révélation, j'entends pas Dieu, mais c'est quand même Dieu qui parle. Alors j'adhère sans condition à la révélation parce que je sais que c'est Dieu qui parle, qui a parlé. Et j'adhère sans condition dans la manière dont Immaculée, dont Marie, elle l'a entendu. Parce qu'elle qui l'a entendu, elle l'a entendu par la foi. Et c'est Dieu qu'elle a atteint en pleine substance et en pleine connaissance. Alors c'est avec la foi immaculée, apostolique de Marie, que je vais adhérer sans condition à ce que cette révélation dit dans la foi immaculée, du corps immaculé de l'Église de Marie. De l'Église apostolique, de l'Église, celle qui est une, celle qui est sainte, celle qui est immaculée, celle qui est apostolique. C'est à cause de ça. C'est la seule raison pour laquelle on croit à l'Église. Au corps mystique vivant, Jésus vivant. Voilà. Alors, parce qu'avec cette foi, je vais adhérer à Marie-Reine et je vais atteindre Dieu en pleine connaissance. La foi fait que je touche Dieu. Je rentre en Dieu. Et c'est Dieu qui vit en moi. La révélation que Marie est reine, c'est... n'a pas de mots, mais elle a quand même un support dans la révélation. Et ce support, c'est le Verbe de Dieu. Le Père ne cesse de s'exprimer avant la création du monde. Et c'est sa parole, c'est son Verbe. Dieu est une clameur éternelle, omniprésente et intense de lui-même. Donc, le support de Marie-Reine, ce sera le Verbe. Elle a communié, elle a adhéré, elle a touché Dieu, elle s'est laissée emporter par Dieu, assumée par Dieu, glorifiée par Dieu, transformée en Dieu lui-même, dans son corps de femme glorifiée. Et la révélation s'est faite qu'elle était la reine. Qu'elle était la reine de Dieu, qu'elle était la reine en Dieu. Dans l'Apocalypse, il est dit cette parole un petit peu énigmatique, comme d'ailleurs presque toutes les paroles dans l'Apocalypse sont assez énigmatiques. Elles le deviennent beaucoup moins à partir du moment où on rentre dans le mystère de Marie-Reine. Le triomphe glorieux dans le temps et dans l'éternité de Marie, Reine, Immaculée de l'univers, du ciel et de la terre. Et cette parole très extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est l'esprit et l'épouse disent « Viens, Maranatha !» Et c'est comme ça que se termine la révélation. L'esprit, le Saint-Esprit et l'épouse disent « Viens !» que vous le vouliez ou non, ça, c'est le mystère de Marie-Reine. Ces paroles-là. La dernière parole de l'Apocalypse est forcément la clé de voûte de toutes les révélations surnaturelles glorifiées de Dieu en lui-même. Maranatha. C'est pour ça qu'il faut beaucoup aimer les paroles de l'Apocalypse. C'est une très 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 belle chose. Tu restes de prendre quelquefois des paroles de l'Apocalypse. Les plus énigmatiques possibles sont les meilleures. Et puis de les surnaturaliser dans l'adhésion surnaturelle de la foi en disant c'est Dieu qui est là et que je touche. Quand j'adhère profondément, totalement, absolument, intégralement, infiniment et définitivement à ce qui est caché dans cette révélation, comme la foi immaculée, sainte, apostolique de l'Église la reçoit. La disposition pour vivre de ce mystère, pour pouvoir rentrer dans ce mystère, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est qu'on soit vraiment mis à part. Pour être mis à part, il faut être arraché à ce monde. Il faut être arraché au monde de l'orgueil. Et toutes les occasions qui nous arrachent au monde de l'orgueil sont des bénédictions sans lesquelles il est impossible de rentrer dans la sainteté, dans cette prédisposition à rentrer dans le mystère de Marie-Reine. C'est ça. Voilà ce que dit l'Église, Saint-Dominique, le Pape, la disposition pour vivre ce mystère, la sainteté. Pour contempler ce mystère, être arraché à ce monde cosmique, et que notre orgueil soit anéanti grâce à des humiliations profondes. Il n'y a que l'humiliation qui peut anéantir l'orgueil. Quand je m'humilie, ou quand, par la grâce de Dieu, je suis profondément, radicalement, substantiellement humilié, immolé dans l'humiliation. Et que cette humiliation soit éprouvée comme une chance, une grâce, une gloire, une résurrection. C'est très intéressant et très beau de voir que la disposition à rentrer dans le mystère de Marie-Reine, c'est ça. Parce que ça nous fait entendre qu'elle a été... Jusqu'où a été Marie dans ce domaine, dans l'humiliation, dans l'humilité. Nous avons vu la dernière fois, donc quand même, on va se dire, c'est vrai, spontanément, on se dit, attendez, le quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge, tout de même, il ne doit pas y avoir une très grande différence entre la méditation. Hein, si je médite, allez, je vais contempler le mystère de l'Assomption de la Vierge. Et puis la dizaine de rosaires suivants, je médite le mystère de Marie à Reine. Je dis, attendez, il me semble que c'est la même chose. N'est-ce pas la même chose? Est-ce que c'est pas un petit peu pareil, quoi? C'est vrai, réponse oui, c'est vrai que c'est un petit peu pareil, puisque dans l'instant de l'Assomption, Marie est établie reine. Dans l'instant de l'Assomption, dans l'instant éternel de l'Assomption, Marie éternellement est passée comme reine, établie comme reine. L'Esprit Saint, elle est la reine de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est pleinement manifesté dans Marie. La manifestation de l'Esprit Saint est absolue. Marie-Reine. Et la manifestation de l'épouse, donc du Verbe éternel de Dieu, est pleinement manifestée en Marie-Reine. Jésus n'est pas la pleine manifestation du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est l'épouse du Père. On le sait bien, hein, c'est la grande trame hein, du rosaire, ça, hein, c'est que le Verbe de Dieu, c'est l'épouser de l'époux qui est le Père. C'est celle qui est tout intime au Père. C'est Dieu qui est tout intime à Dieu. Donc l'épouse est pleinement manifestée dans Marie Reine. Jésus ne trouve la pleine manifestation de sa personne d'épouse, de Verbe, que dans ce mystère-là. C'est pour ça que c'est l'esprit et l'épouse disent viens. C'est le Saint-Esprit pleinement manifesté en Marie-Reine, c'est-à-dire que Kai, n'est-ce pas? Kai, petit mot, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit et l'épouse. Donc l'Esprit Saint, Kai. Ça veut dire à la fois et ça veut dire à la fois c'est-à-dire que. Donc l'Esprit est pleinement manifesté en Marie-Reine, c'est-à-dire que l'épouse est pleinement manifestée en Marie-Reine. L'épouse, le Verbe de Dieu, quoi. Ah, et c'est cette pleine manifestation et du Saint-Esprit en Marie-Reine et du Verbe de Dieu en Marie-Reine dans l'unité qui est Marie-Reine et qui est le vient de l'Apocalypse. Un vient à qui s'adresse. Et le règne de Marie-Reine, c'est ce vient. Et sa réponse, Maranatha. L'heure de l'éternité est dans sa main. Donc on va dire, mais oui, Marie est assumée par Jésus glorifié dans l'Assomption. Marie est reine, on aurait dû dire, voilà, ça fait qu'un seul mystère. Non, il y a deux mystères. C'est un mystère différent. Alors c'est vrai, et tout à fait vrai, que, comme d'ailleurs tous les mystères du rosaire, sont comme le germe du mystère suivant. C'est vrai que le mystère de l'Assomption est le germe dans lequel se recueille, se contemple, se déploie tous les trésors du mystère de Marie-Reine. On avait vu donc déjà hein, dans le quatrième mystère glorieux que le fait que Marie soit ressuscitée d'entre les morts, qu'elle ait connu la dormition, n'est pas tout à fait la même chose que le fait qu'elle était reçue, assumée glorieusement dans la résurrection de son Assomption. La résurrection du Père et du Fils en Jésus a été le moule de la transformation et de la création du corps de Marie glorifié. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et il y a la même différence entre l'exercice de la résurrection de Jésus et son anastasis de sa résurrection que nous avions vu dans le premier mystère glorieux. L'exercice, c'est que le fait que Jésus s'est pleinement épanoui dans la gloire de sa résurrection en intégrant tout ce qui est créé dans sa résurrection, en le possédant, en le traversant et en lui laissant sa liberté et sa finalité nouvelle et glorieuse. Ça, c'est l'exercice de Jésus ressuscité. Vous rappelez hein, qu'il y a deux mots pour dire résurrection. Exercice et anastasis. En français, il n'y en a qu'un. Donc, voilà. Donc c'est ça qui est bien. Donc, et l'anastasis, c'est que Jésus, dans cette espèce de gloire de la résurrection, où il a pris pleinement possession de toute la gloire de Dieu dans son corps, debout, agile, subtil, possédant tout, traversant tout, recevant tout, transformant toute substance dans une finalité glorieuse nouvelle, et atteignant toute la plénitude cosmique de sa gloire. Il a pris toute cette gloire de l'exercice de sa résurrection en lui-même, en sa divinité, et avec elle d'ailleurs toute la création, tous les temps et tous les lieux, et comme un petit grain de sable, de rien du tout, pour le dépasser dans l'immensité de son anastase. Et l'anastase, c'est le fait qu'il dépasse le cosmos, il dépasse la gloire de sa résurrection cosmique, il dépasse la gloire de toutes ses gloires de ressuscité, pour rentrer dans la gloire divine de son anastase, pour rentrer corporellement, avec son cœur humain, quoi, avec, qui bat, avec, c'est extraordinaire, les neurones, tout ça, qui battent sa peau, ses cellules glorifiées, tout ça, son intelligence humaine, son regard, son sourire, sa tendresse, sa délicatesse, son désir, tout est corporellement présent au-delà de cette résurrection, dans la résurrection d'Anastasie, c'est-à-dire dans Dieu. Ça déborde tous les temps et tous les lieux, dans l'éternité de Dieu. Il est corporellement présent dans toutes les intimités de sa propre personne et du sein du Père et du sein du Saint-Esprit. C'est quand même pas pareil, évidemment, hein, on a bien senti. De la même manière, il y a la même différence de l'exercice à l'anastasis qu'avec la dormition à l'assomption. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. La dormition, c'est vrai que l'amour de Marie, dans la trame de sa sainteté extraordinairement tissé dans les gloires de son de la transverbération de son cœur tout glorifié, mais tout pressé par la grâce, la plénitude de grâce adoptante qui était en elle, et qui donc l'a pressé dans, comme quoi rédemptrice, hein, pour aller jusqu'à la dormition, elle a traversé toutes les trames que Jésus avait traversées dans sa résurrection, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes nos détresses humaines, de toutes nos pauvretés, de toutes nos existences, de toutes nos réalités, de toutes nos vie, tous nos instants, elle les a traversés par un miracle vraiment de Dieu, mais qu'il faut pas croire qu'il n'était pas lucide en elle, et elle a traversé tous ces temps et tous les lieux pour rejoindre Jésus dans l'intensité de son amour pour chaque instant de chacune de nos vies. C'est extraordinaire ce qui s'est passé dans la vie de Marie, quoi, c'est vrai. À partir du moment où la gloire de l'anastase s'était réfugié en elle, et que toute la gloire de l'exercice s'était réfugiée dans son cœur glorieux, dans la blessure de son cœur transverbéré, et tout pressé par son travail d'amour surnaturel, et glorifié en même temps, et crucifié en même temps. Alors cette dormition est le signe que toute la gloire de l'exercice avait atteint son sommet, son accomplissement, sa plénitude dans son cœur, et son amour avait atteint le même degré d'intensité, le même degré de charité que celui du cœur de Dieu dans le Christ. Et donc elle est rentrée en affinité, en complémentarité avec le cœur glorifié de Jésus, avec la charité surnaturelle de Jésus. Et c'est ce que nous avons vu. Donc elle portait réellement, comme Jésus glorifié avait dans son exercice, elle avait porté réellement en elle, tout à fait lucidement, dans les battements de son cœur, de la charité, de l'amour, avec ce degré d'intensité qui était celui de Jésus, de tout, de tous. Elle avait été jusqu'au bout de la foi. La résurrection de Jésus, exercice, c'est la dormition. Mais du coup, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, du coup, Dieu, voyant cette foi, ce dernier acte d'une humiliation absolue de Marie, voyant qu'elle n'était rien, quoi, puisque entre l'exercice et l'anastasis, il y a un abîme. Dans cette humiliation, mais alors, cette détresse, on peut dire, de la dormition, elle a fait ce dernier acte de foi pour croire encore dans la résurrection, pour tous les élus, pour tous les temps, pour tous les hommes, pour tous les pécheurs, pour toutes les humiliations humaines, toutes les humiliations infligées par Satan, y compris, bien sûr, et c'est dans cette humiliation qu'elle s'est endormie en croyant. Elle nous a obtenu donc cette gloire de la foi en la résurrection, ce dernier acte de foi a permis à Jésus, à Dieu, donc, de prendre Marie dans sa chair, de prendre Marie dans son sang, de prendre Marie dans sa féminité, de prendre Marie dans sa foi, de prendre Marie dans sa sainteté. Et à partir de là, de créer un ciel nouveau, de créer une terre nouvelle, de créer une femme nouvelle. Et l'Assomption n'a rien à voir avec la Dormition, de même que l'Anastase n'a rien à voir avec l'exercice. C'est la même différence. Et c'est vrai que c'est à l'intérieur de l'Anastase de Jésus et à l'intérieur de l'Assomption de Marie, où elle est créée nouvelle, un nouveau ciel est créé, une nouvelle terre est créée, une femme nouvelle, une créature totalement différente est créée à partir de la matière première de sa Dormition. Ça, c'est très beau, hein. C'est ce qu'on avait vu, hein. On avait vu ça, hein. La dernière fois, on a vu ça, c'est trop beau, ça. Ah, que ça nous fait du bien, parce que nous, je veux dire, c'est quand même la matrice de notre vie, hein. C'est notre tissu. On est tissé avec ça, quoi. On est tissé avec ce mystère de la Dormition et de l'Assomption de Marie. Ah, Marie, du coup, est établie comme reine. Et nous avons vu la dernière fois que, en Marie, comme femme, toute bénie, toute unie, comme nouvelle Ève, dans cette unique gloire de la résurrection, avec cette humanité intégrale, cette sainte famille nouvelle, la très sainte Trinité glorifiée, elle est établie comme vraiment, évidemment, la manifestation du Père, comme la manifestation du Verbe de l'Épouse, comme la manifestation de l'Esprit Saint. C'est un nouveau ciel qui est créé. C'est un nouveau ciel qui est créé. C'est un nouveau corps ressuscité, une nouvelle résurrection qui est créée. La résurrection de Jésus n'était pas toute la résurrection du corps. Tandis qu'avec Marie-Reine, il y a toute la résurrection du corps. C'est sûr que si vous avez que le petit jeune homme, il a 14 ans, il n'y a pas toute la famille. Et il n'est pas encore marié, il n'a pas encore ses enfants. Donc c'est facile à comprendre ça. c'est pas très difficile. Donc Marie n'est pas reine. Un nouveau ciel est créé. Ça, c'est étonnant, quoi. On peut pas dire que ce soit pas un truc étonnant à recevoir et à croire. Marie est reine. Un nouveau ciel, le ciel qui est avant la création du monde. Un nouveau ciel est créé. Un nouveau ciel de Dieu, une nouvelle intériorité divine du Père, la vie intime de Dieu le Père est nouvelle. La vie intime de Dieu l'Esprit du Saint-Esprit est nouvelle. La vie intime de la très sainte Trinité est nouvelle. Un nouveau ciel a créé. Une nouvelle lumière engendrée dans la lumière. Une nouvelle surgissement de l'amour dans l'unité du Père et du Fils, dans l'intimité de leur union éternelle est créée. Dans le corps nouveau de la résurrection de Jésus, manifesté dans la royauté de Marie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut contempler, c'est évident. Alors, comment on se vient de dire, mais comment est-ce qu'on va contempler une chose pareille? On peut contempler des choses qui sont à notre portée, quoi. Mais là, ça nous dépasse complètement. Eh bien non, ça ne nous dépasse pas complètement. Dans la lumière surnaturelle de la foi. La lumière surnaturelle de la foi nous permet de saisir clairement que ça ne nous dépasse pas. Ça nous est donné. Jésus l'avait dit, voici ta mère. Voilà ton fils. Dernière parole. Et puis j'ai soif. Et puis, ça a été le souffle de son expiration dans le sein du Père par l'Esprit Saint. comme dans l'Apocalypse, l'esprit, l'épouse, qui crie, viens, j'ai soif. C'était une prophétie de Marie-Reine. Voici ta mère. Et il nous l'a donnée, quoi. Et Marie, c'est ça qui est extraordinaire. Marie, aussitôt dans son assomption, est immédiatement donnée. Elle est immédiatement donnée. Et du coup, nous pouvons en vivre par la foi, par l'amour, avec le paraclet, dans la subsistance du Verbe de Dieu, dans le dévoilement de Dieu à l'intérieur de l'acte de foi absolu que nous faisons. Nous adhérons à Marie-Reine. Nous la recevons. Nous en vivons. Ah ! L'alliance avec Marie-Reine est une alliance indispensable. Il y a même des gens qui portent des alliances comme ça. Une cérémonie. L'alliance, moi je fais l'alliance avec ma mère. C'est l'alliance avec Marianne, ça change tout, quoi. Un nouveau ciel a été créé, une nouvelle terre. Voici, c'est de l'Apocalypse, hein. Voici que je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et l'ancien ciel de Marie, le ciel de sa foi sainte, immaculée, portée par les sept dons du Saint-Esprit comme un feu, par le paraclet lui-même. Ouh, tout ça est parti. L'ancien monde s'en est allé. Cette gloire de Marie dans la résurrection, ressuscitée elle-même dans le Christ, s'est effacé. L'ancien monde, l'ancienne terre s'en est allée. Je crée une nouvelle terre. Faut saisir ces deux moments dans la résurrection de Marie. Hein, ça, c'est. Eh bien, ce premier moment est effacé. Il y a une nouvelle terre. Et aussitôt, Marie est donnée, donc. Pour régner sur la création tout entière et pour régner sur toutes les intimités vivantes de Dieu. Pour régner sur l'éternité vivante et sur le temps vivant. Pour régner sur nous, pour régner dans nous. C'est pour ça, nouveau ciel, nouvelle terre. Le monde a changé bien davantage au jour de l'Assomption de la Vierge qu'au jour de la résurrection du Seigneur. Sur le plan de la matière, sur le plan de la subsistance dans la providence omniprésente de Dieu, la matière a vibré d'une manière considérable. Elle a vibré, en fait, d'une manière cosmique, dans l'ordre de la subsistance, dans le Verbe de Dieu, au moment de la résurrection de Jésus. Mais là, elle a connu un ébranlement vital. Et c'est depuis que la création tout entière aspire. Et l'aspiration, c'est pas un ébranlement, voyez, dans l'ordre de la subsistance. Et de la substance, c'est un ébranlement dans l'ordre de l'acte. Dans l'ordre de la vie. Elle aspire à la révélation des fils de Dieu. La création tout entière. Marie est reine de l'univers, du ciel et de la terre. Il faudrait lire, j'ai hésité, j'aurais dû prendre la Bible, puis on aurait dû lire l'Apocalypse, quoi. Vous voyez ? Mais on y est encore l'année prochaine. Hein. On y est encore l'année prochaine, parce que si on regarde de moins de détails, c'est passionnant. Hein. On y est encore l'année prochaine, vous voyez comment Marie est reine. domaine et on adhère à ça. Et du coup, on a envie. Oh, que ça me plaît, ça. Alors, il est bien évident que c'est la mat... C'est toute l'humiliation de la femme qui a trouvé là le bonheur de Dieu. Enfin, Dieu pourrait s'épanouir universellement en tout lui-même et en toute chose, dans l'unité. Et cette recréation, du coup, de la femme dans un ciel nouveau et dans une femme nouvelle, dans une... A fait que ce qui est propre à la femme, sa virginité, sa maternité et toute la signification sponsale de son corps féminin, les trois, ont été recréés. Et que Marie soit reine, c'est le fait que toute sa fécondité de femme comme mère est intégrée et recréée. Nous l'avons fait la dernière fois, ça. Et donc, elle a une fécondité physique, glorieuse. Au ciel, dans la gloire de sa résurrection, elle va pas engendrer des enfants, vous comprenez? Sinon, elle serait mère glorifiée. On dirait, c'est la maternité glorifiée de Marie. C'est pas la maternité glorifiée de Marie, c'est Marie reine. Et justement, la maternité, ce n'est plus de la maternité, c'est la transformation de la maternité en fécondité éternelle. Incarnée. Mesdames, pourquoi êtes-vous femmes, hein ? Vous se posez la question en méditant au mystère de Marie-Reine. C'est évident. Il y a une maternité, donc il y a une fécondité. Et elle implique la chair. C'est la fécondité de Dieu éternelle qui est impliquée dans votre féminité. Cette fécondité permet à toute l'éternité de Dieu de se réaliser de manière incarnée. Or, il se trouve que quand une mère est mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Où est sa fécondité? Où est la fécondité de la signification sponsale du corps féminin? Il y a une fécondité déjà dans l'unité sponsale. C'est elle qui en a l'initiative. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre que de la signification sponsale du corps de la femme. C'est elle qui a l'initiative de cette fécondité de l'unité sponsale. Il n'y a pas d'unité sponsale sans l'initiative de l'humiliation profonde de la femme pour la réalisation de la réciprocité. Voilà la première manifestation de la fécondité de la femme. La deuxième manifestation, c'est la conception. Une femme conçoit un nouvel être avec Dieu. La troisième manifestation, c'est que la femme est structurée pour faire grandir, pour nourrir. Elle donne la nourriture. Elle est elle-même la nourriture. Que ce soit à l'intérieur du sein ou en dehors du sein, elle donne et elle est la nourriture. Et enfin, quatrièmement, elle engendre. Elle engendre à l'amour, à la communion. des personnes, elle engendre. Elle met au monde. Eh bien, ces quatre manières dont le corps vivant et spirituel de la femme se réalise dans la semence des lois de la nature va être transformée et vont être les quatre fleuves du paradis de Marie-Reine qui vont structurer sa fécondité nouvelle et glorieuse. Marie, donc, d'une manière éternelle et incarnée, va permettre à Dieu, le Père, d'être un, de manière incarnée avec tout ce qui existe, et de manière nouvelle avec son Fils. Et c'est Marie-Reine qui est l'initiative éternelle de cette unité sponsale nouvelle du Père avec son Fils. Ah, vous me direz, c'est vraiment, ça nous dépasse un peu, quoi. Mais il n'est pas du tout interdit d'avoir la foi. Et la foi, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur de mon Père, qui est Dieu, et de ma vie, qui est Dieu, le Fils. Et quand Marie-Reine est établie comme reine, alors, qu'est-ce que vous voulez, l'unité sponsale, l'unité entre le Père et le Verbe, est nouvelle. Écoutez, c'est pas très difficile à comprendre, ne serait-ce que intellectuellement. Intellectuellement, on peut le comprendre. Alors, on va baisser d'un niveau, on va essayer de le comprendre intellectuellement. C'est que Marie, elle est femme, hein. Marie, elle est femme. Le fait qu'elle est reine, c'est qu'elle est pleinement, divinement, éternellement, glorieusement femme. Elle est épouse, quoi. Donc. Elle est femme, quoi. Elle est corporellement femme. Bien, mesdames, ma culpa, mais à Maxime, ma culpa, je ne suis pas pleinement femme, hein, parce que je ne suis pas encore Marie-Reine, hein, je ne suis pas comme Marie-Reine. Oui, pleinement femme, et il se trouve que c'est être épousée, être épouse, être de manière incarnée, et divinement, c'est la fonction de la deuxième personne de la très sainte Trinité. Puisque la deuxième personne de la très sainte Trinité, le Père, c'est l'époux de la très sainte Trinité. Et la deuxième personne de la très sainte Trinité, voilà l'enseignement du pape. Hein. C'est l'enseignement du pape Jean-Paul II, ça. Hein. Je suis d'accord que c'est le seul. C'est le premier pape à dire ça. Que l'épouse, le Verbe, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Ah oui, donc, la résurrection est portée par le Verbe, par l'épouse. Et donc, la résurrection du Christ est tout à fait elle-même dans le Verbe, avec l'Assomption de la Vierge. Je pense que c'est facile à comprendre, ça. Le Verbe, c'est la féminité en Dieu. Et dans la chair, il a enfin la manifestation plénière d'une chair d'épouse glorifiée. Donc, il est lui-même plénièrement, lui-même dans la gloire, et donc sa sponsalité d'épouse dans l'époux qui le perd est éternellement établi comme un nouveau ciel. Je pense que c'est facile à comprendre, non? Non. C'est pour ça que quand on dit l'esprit et l'épouse disent, viens, Maranatha. Ah, si, ben oui, l'esprit, Saint-Esprit, on comprend. L'époux. Où est-ce qu'on est avec l'épouse? C'est qui? C'est le Verbe de Dieu? C'est Marie? C'est l'Église? C'est la Jérusalem glorieuse? Alors, choisissez quand même. Tel théologien dit, mais non, mais c'est l'Église, ça. Alors, moi, je préfère tel autre théologien qui dit, mais non, quand même. Attendez. Ne mettons pas de limite à Dieu. Marie est reine. Jésus est le Verbe. L'Église, c'est la Jérusalem glorieuse. C'est l'incarnation même et la manifestation universelle, totale, vivante, plénière et définitive et glorieuse ressuscitée de toute l'épousée du Père. C'est tout. Pourquoi veux-tu prendre une paire de ciseaux et couper et séparer ce que Dieu a uni? L'épouse, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. L'épouse, c'est la femme pleinement glorifiée comme femme. Et reine, l'épouse, c'est la Jérusalem glorieuse. Et tout ça, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité, vivante et incarnée glorieusement en un. C'est tout. Alors, c'est facile à comprendre, mais maintenant, par la foi, je vais y adhérer pleinement. Et ça m'est donné. C'est le premier aspect, hein, de la fécondité de la femme en mari, transformée en royauté, quoi. La deuxième, c'est qu'elle conçoit. Une femme conçoit un nouvel être. Oh, ça, c'est beau, ça, que Marianne conçoive un nouvel être. C'est Dieu qui crée, hein, un nouvel être, hein, dans la conception, hein. Mais la femme conçoit. C'est pas l'homme qui conçoit. L'homme, il y est pour rien, le pauvre vieux. On le voit bien dans le mystère de l'incarnation, Joseph. C'est peut-être pour montrer aux hommes qui, dans la conception, c'est la femme. Hein. Je conçois, c'est la procréation. Donc Dieu crée un monde nouveau. Dieu crée une terre, donc un ciel nouveau, voilà pour le premier aspect que nous venons de voir, une terre nouvelle, un corps. Ah oui, voilà. Que désormais, Marie conçoit en elle, Marie-Reine conçoit en elle, et Dieu crée en elle, justement, éternellement, comme une conception. Un corps adapté au Saint-Esprit. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez, toutes vous? Vous savez, certaines personnes, quand elles sont nouvellement engagées dans une foi ardente, débordante, lumineuse, mariale et tout ça, et ils sont enthousiasmés à l'idée qu'il y a cette unité si extraordinaire entre le Saint-Esprit et puis Marie, quoi. Bah oui, bien sûr, Jésus, bon, c'est Dieu, c'est le Verbe, mais Marie, voilà, c'est, voilà, visage du Saint-Esprit. Oui, oui. Ah, ben voilà, Saint-Esprit s'est incarné en Marie. Ben, attention, je vais faire toujours très, 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 très attention. C'est vrai. J'ai quelque chose qui s'est créé, c'est que Saint-Esprit a trouvé là, dans le mystère de Marie-Reine, de quoi concevoir une gloire qui lui est propre dans l'incarnation de Jérusalem glorieuse. C'est une nouvelle terre. Mais c'est fait à partir de Marie de l'Assomption. Ce n'est pas créé à partir de rien. Et Marie reste tout à fait elle-même. comme reine. Et ce qu'elle est elle-même, c'est la manifestation du Saint-Esprit à l'intérieur de l'unité du Père et du Fils. C'est vraiment cette conception-là. Elle conçoit à l'intérieur d'elle une gloire intime dans l'unité du Père et du Fils qui est incarnée. Et donc, ce n'est pas la conception d'un enfant ou d'un être nouveau ou d'un nouvel être humain ou d'une humanité nouvelle qu'elle conçoit. Elle conçoit une gloire. Manifestée pour le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, cette transformation de la maternité en royauté. Hein. Bon. La mère, elle donne aussi la nourriture. Elle ne nourrit une mère. Si elle ne nourrit plus son enfant, elle n'est plus vraiment sa mère. Alors regardez bien que comme dans une vie de mère, la mère, c'est son sang qui nourrit l'enfant. Et puis après, c'est la nourriture qu'elle prend qui nourrit l'enfant. Puis après, c'est elle qui nourrit l'enfant par le sein. Elle lui donne sa nourriture. Puis après, elle travaille, elle le fait manger. Elle lui donne sa nourriture. Là, ici, le père commence à jouer un rôle. Puis après, elle lui donne la nourriture spirituelle. Elle lui donne la nourriture du cœur. Elle lui donne la nourriture... Et puis, après, quand l'enfant est parti et qu'il est loin, elle lui donne la nourriture mystique, elle lui donne la nourriture de la bénédiction surnaturelle. Mais une mère doit toujours donner la nourriture, elle nourrit le sang spirituel de son enfant. C'est ça, une mère nourrit. Hein, c'est normal, ça. La Marie reine, cette royauté de Marie implique qu'elle va nourrir avec, à partir de son corps glorifié d'épouse et de femme et de reine. Elle va nourrir cette gloire du Saint-Esprit de manière à ce qu'elle ait sa croissance dans le corps, dans la résurrection, de manière qu'elle ait sa croissance dans toute la gloire de tous les membres vivants, du corps vivant, de l'épouse incréée vivante. On ne peut pas nier. Elle va nourrir et rendre possible cette croissance dans son sein, dans le temps de son sein, dans le temps de la création de la Jérusalem glorieuse. Mais également quand l'enfant est né, c'est-à-dire quand cette résurrection universelle aura eu lieu, elle nourrira. Et elle nourrit éternellement de la communication glorieuse de la lumière de gloire de l'épouse dans le Père, du Verbe dans le Père. Elle en nourrira tous les élus de la plénitude de cette nourriture avec son intensité propre. Elle est la reine. Elle nous nourrit de la gloire, c'est la victoire d'amour du Saint-Esprit sur nous. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Enfin, concrètement, ça veut dire que, comme elle est la reine, à la Pentecôte, elle avait pu nourrir, si je puis dire, être dans le feu ardent de sa maternité vis-à-vis des apôtres et de nous tous, nourrir du lait des sept dons du Saint-Esprit, hein, du lait glorieux. Ces saveurs, c'est extraordinaire de la Pentecôte. Et dès lors que Cette maternité-là de la Pentecôte est transformée après son assomption en royauté. Cette nouvelle nourriture sera plus les dons du Saint-Esprit. Ce sera la gloire du Saint-Esprit en personne lui-même. Le paraclet, Jésus l'avait dit. Il faut que je m'en aille. Il vaut mieux pour vous. Parce qu'alors, je vous enverrai le paraclet. Et ça, on ne peut pas le faire sans qu'il y ait l'unité sponsale glorieuse de l'épouse dans l'épousé. Et la Jérusalem glorieuse tout ensemble. Le paraclet. On le voit dans l'Apocalypse. Je vis un ange sortir de l'autel. Et proclamez à haute voix celui qui est dans le trône, jette ta fossile. L'heure est arrivée. Une créature qui dit à celui qui est dans le trône, l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est l'heure. Qui décide de l'heure, hein? Voilà, vous avez la réponse là, dans l'Apocalypse. C'est une créature, un ange qui sort de l'autel. L'autel de la conception. Sur l'autel hein, qu'on conçoit le Verbe pour le Père. La quatrième fonction de la mère, c'est le fait qu'elle met au monde. Elle donne la communion des personnes. Elle provoque. C'est Marie qui fait l'unité, si vous préférez. Elle met au monde. Nous sommes mis au monde pour vivre de l'amour. Avec nos frères, avec nos sœurs, avec ceux que Dieu met proche de nous. Pas celui qui est lié par des liens moins importants. Non, par ceux qui sont proches de nous. C'est beau, hein, quand on lit l'évangile, on dit, tiens, quel est le commandement de Jésus? Le commandement de Jésus dit, voici, juste avant de partir, chapitre 15, avant, juste au moment de passer de ce monde-ci à son Père, Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Ça, il faut aimer son frère, il faut aimer sa sœur, il faut aimer. Est-ce que nous pouvons dire, c'est la question qu'il faut se poser quand on médite ce mystère de Marie-Reine, je pense que c'est une très belle question, parce qu'elle porte sur la quatrième fécondité de la reine. Si je meurs maintenant, est-ce que je peux dire à tous ceux qui sont autour de moi que je connais, est-ce que je peux dire, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Est-ce que tu pourras dire ça? Est-ce que dès maintenant tu peux dire ça à ton médecin? Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. C'est le fruit du mystère, ça. C'est le fruit du mystère. Le fruit du mystère, c'est qu'on puisse dire ça. Marie, quand Jésus est parti, il a pu dire à Marie, il a pu dire à Pierre, il a pu dire à... Il a pu dire à Judas. Judas était là. Et il lui a dit, j'ai sûr quand il a essayé de regarder Judas, c'est impossible autrement. Il m'a regardé, même moi, alors. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas regardé Judas? Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Voilà le testament du Christ, de Jésus. C'est s'adresse à Marie, ça. Et Marie, elle a aimé chacun d'entre nous avec autant d'intensité dans sa transmission et son assomption que Jésus nous a aimés en donnant toute sa vie, en se donnant elle-même, en se laissant donner. Et comme elle est reine, elle nous donne de pouvoir le faire. On force pas sur l'amour, vous savez. Sur de l'amour, on ne force pas. On va pas arracher de l'amour pour quelqu'un. Non. Ça nous est donné. C'est le fruit de ce mystère. Si je le contemple, si j'y adhère, alors Marie est là et elle donne toute sa vie. Et celui qui est proche de moi. Elle se sert de moi pour ça. Bon, par exemple, je suis marié. Il y a des gens qui sont mariés. Ça, on en trouve encore. Bon. Je suis marié. Ah, je vais me forcer, mais ma femme. Mais je suis chrétien, donc en plus un sacrement de mariage, donc tout ça, bon. Faut que je me force, quoi. Il faut que je me force, il faut que je fasse des efforts, quoi. Faut que je vais faire des efforts, je vais me dépasser un peu, quoi. Je vais. Est-ce que c'est comme ça? Ah non? Si on médite le mystère de mariage, on comprend tout de suite que c'est pas exactement comme ça. L'amour, ça se force pas. Où est-ce que je vais tirer de mon cœur de... Attends un peu, quand même. Mais non. Mais si je vis toute simplicité, si je vis en toute simplicité, bon, c'est vrai que, quand même, ma femme, elle est peut-être un petit peu agressive de temps en temps. Délicate, tout ça, elle fait pas attention, elle fait plus attention à moi. D'ailleurs, je l'intéresse plus, je la comprends très bien. Je la comprends, c'est vrai, écoutez, bon. Mais non, que je l'intéresse plus, bon, d'accord, bon. Qu'elle s'occupe d'autres choses plus intéressantes que moi. Tac, je le comprends, bon, très bien, bon. Mais oui, mais alors, il faudrait que je puisse lui dire à ma femme, je t'en supplie. Je suis en train de m'endormir là. Je vais mourir, supposons. Tout l'amour que je t'ai porté, que je te porte en ce moment, donne-le à Dieu. Aime Dieu de la même manière que moi je t'aime maintenant. Aime tous ceux qui sont autour de toi de la même manière que moi je t'aime maintenant. Ça, je crois à ça, hein. C'est ma foi. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui dit, aimez-vous les uns les autres, c'est une invitation. Et dès qu'il nous invite, s'il se dit oui, il le donne. Alors, c'est pas compliqué. Donc, c'est Jésus en moi qui dit ça. Et il dit ça en Marie. Et ils le disent tous les deux, glorieusement et éternellement, en moi. Et c'est de là que je donne l'amour à celui que Dieu a mis proche de moi. C'est de là. C'est pas parce que je ressens encore quelque chose pour elle, quoi. Ah ouais, ça va, on reste encore ensemble. Parce que je ressens encore quelquefois quelque chose pour elle. C'est l'amour que je veux et non les... les sacrifices. Alors, c'est pour ça que c'est très très beau ce quatrième aspect. C'est Marie qui fait l'unité. Et il faut toujours se dire ça. Je suis... regardez, quelquefois il y a des problèmes dans l'église entre tel prêtre et tel autre prêtre, par exemple. C'est Marie qui fait l'unité. Elle est reine, elle fait l'unité dans l'ordre de l'amour incarné. Et... Elle met au monde le ciel nouveau de la nouvelle gloire éternelle de Dieu. C'est la parousie de l'amour. Il y aurait une autre cinquième manière de contempler ce mystère qui serait très belle, enfin qui serait très utile aussi sans doute. Ce serait de dire, ben voilà, tout ce que Dieu a pris en Marie pour créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, une femme nouvelle, une épousée incarnée, glorieuse nouvelle, tout ce qu'il a pris, mais c'est tout ce que Marie a vécu dans les 20 mystères du rosaire. Il a pris en elle tout ce qu'elle a vécu dans l'Annonciation. Il a pris en elle tout ce qu'elle a vécu dans la Visitation. Il a pris en elle tout ce qu'elle a vécu dans la Nativité lumineuse et transfigurée de Noël. Il a pris en elle, etc. Il a pris en elle tout ça, tous ces instants-là, à la fois bénis, surnaturels, presque à la limite de l'incréé et du créé. Toujours à la limite de le créé et de l'incréé, puisque la foi de Marie, c'est son propre. C'est d'avoir toujours mis les instants de sa vie à la limite de la créé et de l'incréé pour une réalisation nouvelle du mystère. Donc tous ces instants, tous ces mystères qu'on a vus, dont la dormition sont recueillis en un seul mystère de la dormition, et pris par Dieu et recréés de nouveau à partir de la gloire. Et il faudrait voir à ce moment-là comment, effectivement, dans le concret du temps et dans le concret de la gloire de Dieu, vont se réaliser les effets de cette transformation, les 19 transformations. Ah, je crois que vous me connaissez bien, vous avez tout de suite compris, tiens, 19 transformations. 19, c'est Saint-Joseph, hein, toujours. Ah, vous avez compris, 19e verset de Saint-Matthieu, Joseph, qui était juste jusque dans sa substance. Époux de Marie. Ce serait le cinquième aspect du mystère glorieux. Ah, toujours un petit appel, petit rappel. Ah oui, ah oui. Et alors effectivement, ce serait à ce moment-là une œuvre extrêmement utile, extrêmement féconde, extrêmement indispensable. Dans l'œuvre de Marie-Reine, qui consiste à opérer la destruction définitive du mal et la destruction définitive de tout ce qui a été mal. Comment ça va se réaliser? Dans sa manifestation. Et ce sont les 19 manifestations glorieuses de Marie dans la parousie. C'est vrai que l'esprit et l'épouse disent « Viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. » Et ce « Viens, Seigneur Jésus » va se manifester dans l'Église, dans le corps mystique vivant, entier vivant, Jésus vivant, en union avec la gloire de la Jérusalem glorieuse et de la gloire de la Jérusalem lumineuse. Et de la gloire de la Jérusalem innocente et triomphante. Dans l'unique corps mystique de l'Église de Jésus. Ça va se manifester de 19 manières successives différentes. première fois pour la... Il y aura une annonciation universelle de la parousie. Il y aura une visitation universelle de cette gloire de la parousie. Il y aura une nativité universelle du paraclet dans le temps de l'Église, avant la résurrection universelle. Il y aura une consécration de toute création dans la co-rédemption unique de Marie-Reine et de Jésus glorifié dans la Sainte Famille glorieuse. Il y aura une intégration sensible, glorieuse et temporelle dans la Sainte Famille glorieuse de Jésus-Marie-Joseph. Voilà pour le cinquième mystère. Et on peut continuer comme ça. Oui, parce qu'il y aura une seule Église, un seul troupeau, un seul pasteur, puisque Jésus a été disloqué à Gethsémanie dans son corps. Eh bien, il y aura une seule troupeau, une seule Église, un seul troupeau, un seul pasteur, par toute la terre. Il n'y aura plus aucune division dans les aspirations religieuses et dans la grâce. Il n'y aura que la religion de Marie-Reine et de Jésus et du Père, du Fils et du Saint-Esprit sous un seul pasteur. Il faut vivre de ça. Il faut contempler ça. Et on vive par appropriation et par anticipation pour que Marie puisse ainsi le concevoir, l'engendrer et le mettre au monde. Voilà pourquoi la contemplation de ce mystère est nécessaire. Parce que Marie n'est pas reine sans nous. Parce que les mystères du rosaire sont des mystères de la foi. Et Marie au ciel n'est plus dans la foi. Elle est dans la vision béatifique. Et donc sa royauté ne peut s'exercer qu'à travers la foi. C'est-à-dire tous ceux qui la reçoivent comme reine, elle vit comme reine en nous, mais nous c'est dans la foi. Alors du coup, sa royauté peut s'exercer. C'est pour aboutir à ça. C'est pour aboutir à ce que c'est les apôtres des derniers temps. Hein, pour aboutir à ça. À la plénitude apostolique de Marie-Reine dans les apôtres des derniers temps. Ceux qui vont, par qui elle va engendrer la destruction définitive du mal. Oui. Il y aura la première résurrection. Il y aura la première ascension. Il y aura évidemment la Pentecôte de l'amour personnel, glorieux de Dieu le Père. Il y aura la seconde résurrection. Vivre de ça, que ça pour nous ce soit très précis ces choses-là, parce que ces choses-là vont se réaliser dans notre histoire, ce sera sous nos yeux et ce sera par nous.